Radio Transparence.
Radio Transparence, l'info locale en impromptu.
En impromptu. En impromptu.
Il paraît que lorsque l'on est journaliste, fût-ce dans un média connu pour ses prises de position et ses opinions comme notre radio, il n'est pas de bon ton de donner son avis. Pour autant, comment ne pas s'émouvoir devant la façon dont encore aujourd'hui on peut traiter les gens qui arrivent en France. C'est le cas de deux jeunes Bengalis, Shajib et Hossein, dont le traitement finalement n'aurait pas étonné il y a quelques années, lorsque le président de la République s'appelait Nicolas Sarkozy, mais finalement rend beaucoup plus circonspect aujourd'hui, alors que nous sommes sous un gouvernement de gauche. Ces jeunes Bengalis arrivés en France il y a quelques mois maintenant ont été normalement pris en charge par les services du conseil départemental, l'un reversé dans une famille d'accueil et l'autre dans un foyer, avant que le procureur de la République, trouvant suspect l'âge mineur avancé par ces deux jeunes, demande des tests osseux, les fameux tests osseux que l'on croyait tomber dans les oubliettes du sarkozysme, toujours bel et bien pratiquer la preuve des tests osseux qui auraient invalidé les papiers de ces deux jeunes et défini qu'ils sont majeurs. Or, la police aux frontières qui a eu ces papiers dans les mains en atteste la régularité, et l'article 47 du Code civil dit que si des papiers sont attestés et ne sont pas prouvés comme étant faux, eh bien ils passent devant toute forme d'autres examens, y compris d'ailleurs les tests osseux, dont plusieurs tribunaux, il y a plusieurs années, ont invalidé l'exactitude des diagnostics, puisqu'il y a une marge d'erreur tellement importante que lorsque l'on a 16 ans et que l'on s'en fait définir 18 par ces tests osseux, ça on peut monter jusqu'à 19, enfin bref, c'est un petit peu n'importe quoi. Signal d'alarme tiré par la Ligue des droits de l'homme, puisque l'importance est de taille. Lorsque l'on est majeur et que l'on arrive en France, on n'est plus pris en charge par des services sociaux. Il faut lancer des dossiers de demandeurs d'asile, on peut être conduit à la frontière, et en tout cas pas mis en foyer d'accueil ni en famille. C'est le cas pour Shajib et Hossein, pour le moment techniquement à la rue, même si c'est bien plus complexe que cela, et qui ne s'attendaient sûrement pas à ce type d'accueil-là. On arrive en France, ils ont été pris en charge par la Ligue des droits de l'homme. On entendra dans un petit moment Christian Maurice. Mais pour le moment, c'est aux deux jeunes concernés que j'ai voulu donner la parole. Ils vont témoigner, tous les deux, traduits de l'anglais par Anne. Merci à elle. Deux cas de figure, deux trajectoires de vie assez différentes. Ces jeunes ne se connaissaient pas. Ces témoignages-là en disent assez long. Et puis derrière tout cela, il y a deux choses. Tout ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est de pouvoir aller à l'école. On les écoute.
Il est venu en France parce que son père lui a dit que la pauvreté, sa situation était telle qu'il ne pouvait pas lui assurer un avenir au Bangladesh, et donc il a réuni l'argent pour pouvoir l'envoyer.
And that time my father decided to send me out of Bangladesh and
en Europe.
Why in France? Not in England or in Holland. Why France?
Actually, it's not my decision. It's totally my father's.
Donc, en fait, c'était pas sa décision, c'est la décision de son père. Et donc, il n'avait rien à dire, il n'avait pas le choix, il fallait qu'il accepte.
Because my father sent me here. Yeah, yeah.
Donc, en fait, c'était la destination, c'était Rome. Et l'homme à qui il a été confié lui a dit, non, mais à Rome, en Italie, c'est pas la peine que tu restes là. Et donc, il l'a conduit jusqu'en Ariège. Et là, il l'a laissé au bord de la route et il ne l'a plus jamais revu.
Aujourd'hui, tu veux vivre en France, aller à l'école en France. Est-ce que tu es surpris de la difficulté que tu rencontres aujourd'hui pour pouvoir rester en France?
Yeah, totally. I am near 3 months here, so it's a little time, but I face a lot of different situation already.
Ok, il dit qu'il est très très choqué, qu'il s'attendait pas du tout à ce genre de difficultés, et que ça fait 3 mois qu'il est là et que bon, vraiment, il galère et qu'il n'imaginait pas du tout ça et qu'il est assez désespéré.
Because something wrong with me already. So I'm really shocked now.
But you want to stay?
Oui, il dit que lui, oui, il est resté un mois dans un foyer, donc il a eu le temps de découvrir un peu les gens. Et donc, il aurait envie de rester là. De toute façon, il n'a pas d'avenir au Bangladesh et il souhaiterait rester en France.
And that time, I understand the French people and French culture. So I think it's good for me.
Thank you very much and good luck.
Thank you so much.
Voilà, lui, c'était Hossein, voilà, c'est la misère, j'allais dire presque ordinaire, qui l'a amené donc à aller en France, vous l'avez entendu. Autre cas de figure pour l'autre Bengali concerné, lui, il s'appelle Shajib, et Shajib, lui, il est venu pour d'autres raisons, et pas plus légères, comme vous allez pouvoir l'entendre dans son témoignage.
This actually, this Bangladesh is this many problems. This and my family's father only, father and mother and sister, her family, and Bangladesh religion, Buddhist religion. This.
Alors donc lui, il est arrivé parce que le Bangladesh, c'est un pays musulman à 85%, une minorité bouddhiste qui est quand même pas mal persécutée, et donc avant que son père décide de l'envoyer en Europe. Il y a eu énormément d'incendies de temples bouddhistes. Son père a été blessé, hospitalisé. Et d'ailleurs, il va très mal.
This very very difficult and in here Bangladesh, very difficult and dangerous country. After all, and after all, this is the one situation. After one day, this my big sister is the Muslim terrorist, Muslim this criminal. This my big sister kidnapping and.
Comme je le disais, sa famille a été persécutée parce qu'ils étaient bouddhistes, son père a été blessé, sa sœur kidnappée, et donc il l'a envoyé dans un centre bouddhiste dans la capitale de l'État, puis à ce centre bouddhiste, le centre bouddhiste a été menacé, donc on l'a envoyé en Inde, dans une famille.
Après tout, cette orphanage association, ce gourou, decision you stay here but dangerous you going to the India after all and after this my guru is situation is one cousin after all 19 August 2015 I arrived here India after all this
donc la famille en Inde qui était aussi une communauté bouddhiste a eu des ennuis et donc ils ont dit bon non on peut pas te garder donc son père et cette communauté ont décidé de le confier à un homme en lui payant le billet d'avion et donc il est arrivé en avion à Rome.
6/9/2015 I arrived here Italy
to stay in Italy in the first time.
No, I still here but I don't know this. And 6/9/2015 I arrived here in Italy in plane. After this days, this situation is not good. This one man arrived here, my telephone, my this money, passport, all this.
Donc arrived. À Rome, le type qui s'en est occupé lui a dit mais non mais tu peux pas rester en Italie, il y a pas de solution pour toi. Donc il lui a tout pris, il lui a pris son argent, son téléphone, absolument tout, l'a mis sur un train et il est arrivé à Paris. Voilà, sans comprendre, sans savoir.
You, this situation is good after France. You go to, and this your dangerous Bangladesh country. After all, you France go to, you this after all you is okay, you is better. After 8/9/2015, I arrived here Paris this train station, and after all I know why I go in here and there. Why I go in this good place? I don't know. And after all, this day is better. After all, night is coming very cold, very. This 8/9/2015. I arrived here Paris, and after all, this 15, 16, 17 days I arrived here. This is the train station. No eat, no because I have no money. I have no money. Is after all this this wonders I see the Indian Christian is this one Bengali and after all Christian Bengali this see and after all my all problems my Bangladesh what's happened all problem I said that and after this Bengali he goes to a restaurant after all and many days I want to eat after all my cry.
Donc il est arrivé à Paris, il a débarqué à la gare, il a traîné tout seul, sans savoir, sans comprendre à peu près pendant une quinzaine de jours et il a fini par rencontrer pas un Bengali, mais un Indien, je crois, avec qui il a pu parler. Et d'après ce que j'ai compris, donc il l'a hébergé, il lui a donné à manger, et puis il lui a dit, il faut que... Was he the one who said to you then you should go to Foix? You should go to...
And after all, this restaurant, I want...
He gave you the train ticket.
No, this after all, this one fancy man this near this place, after all, this fancy man this said that, what's your problem? What is the name? Yeah. And where are you from? And after all, I don't know this Pali.
How long did you stay with him?
16-17 days. Mm-hmm. And after all this Bengali, Indian Christian Bengali, he came into this home. After all this...
He gave you the train ticket?
He gave that because I have no money.
Okay. Donc il lui a bien donné, il l'a hébergé pendant un certain temps, puis il lui a donné le billet de train pour venir. Did you arrive in Foix? Ou in Pamiers?
I 24 September I arrived here.
Il lui a acheté le billet de train et il lui a dit de demander quand il arrivait à Foix de demander de se rendre au conseil général. Il lui a donné l'adresse ou au moins le nom et lui a demandé à des gens à montrer le nom et c'est comme ça qu'il est arrivé au conseil général.
La question que je l'ai pas faite, c'est difficile depuis que tu es en France. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux? Aller ailleurs ou retourner au Bangladesh.
Would you like to since it is so difficult in France, would you like to stay here or would you like to go somewhere else or would you like to go back to Bangladesh?
I want to
Donc lui il veut vraiment rester de toute façon, bon il veut pas retourner au Bangladesh parce que c'est trop dangereux et sa famille est trop en danger et donc il espère pouvoir aller à l'école, avoir ses diplômes parce qu'il était scolarisé au Bangladesh et rester là et
Voilà, deux témoignages. Important quand on reprend le fil de ce qui leur est arrivé à partir du moment où ils sont arrivés en France après toutes ces aventures, donc présentés au conseil départemental, dossier transmis au procureur et les enfants, ou en tout cas ces jeunes mis en famille d'accueil et en foyer. Mesures de protection d'urgence enclenchées, mais la réquisition du Shiva et des médecins du Shiva par le procureur de la République pour des tests osseux, des tests qui vérifient la calcification des os et au vu de cette calcification définissent l'âge que l'on peut avoir. Les résultats n'ont pas été communiqués aux jeunes et pour autant ils ont été déclarés majeurs. Donc s'ils sont majeurs, normalement la loi obligerait à ce qu'ils aient les résultats de leurs tests, mais bon, ce n'est pas le cas. Donc ils sont majeurs mais pas informés et donc surtout remis à la rue puisque toutes les mesures de protection de l'enfance ne s'appliquent pas à des personnes majeures. Et c'est là qu'intervient donc la Ligue des droits de l'homme qui ne comprend pas cet imbroglio, qui en est même à suspecter les services du procureur de la République d'agir de façon dogmatique plus que de façon rationnelle. Idem pour le juge des enfants saisi qui a refusé, sans juger nécessaire de développer, de se justifier, de ne pas tenter de protéger Hossein et Chagib qui actuellement sont logés par des militants de la Ligue des droits de l'homme. Christian Maurice.
Si on entend par ubuesque que le fait que ces mômes sont rejetés et n'ont aucune possibilité de recours parce que entreprendre une quelconque démarche signifierait qu'ils disent qu'ils sont majeurs alors qu'ils sont tous les deux mineurs et qu'ils ne peuvent pas aller en justice pour faire valoir leurs droits en tant que mineurs. Voilà, et qu'il faudrait un administrateur ad hoc qui serait comme par hasard nommé par le procureur, le dit procureur qui précisément ne les reconnaît pas mineurs. Donc on tourne en haut.
Ils sont tous les deux mineurs, en tout cas ils ont environ 16 ans à peu près, les deux. Tous les deux ont des papiers. Sont arrivés en France, ont suivi les démarches pour être considérés comme mineurs isolés, et donc avoir accès à une famille d'accueil et pouvoir commencer finalement une vie en France. Tout semblait finalement aller bien, jusqu'à ce que le procureur s'en mêle et conteste. Pourquoi est-ce qu'on en vient à contester la minorité? Voilà, ils disent avoir 16 ans, le procureur dit ils en ont au moins 18. Pourquoi?
Mais c'est... rien n'est jamais allé bien. Quand ils sont arrivés, oui, ils étaient arrivés ici, entre guillemets, sans encombre. Ça a duré 15 jours. Au bout de 15 jours, ils se sont retrouvés dans la rue parce que le procureur avait fait passer des tests osseux qui sont loin d'être fiables. Je ne reviens pas dessus en détail. C'est un examen tout à fait aléatoire. Leurs papiers ont été authentifiés par la police des frontières, donc il n'y a aucun souci sur la réalité des...
Oui, c'est-à-dire qu'ils avaient des papiers, les papiers ont été vus, le procureur a contesté, pour autant les papiers sont partis à la police des frontières, la police des frontières a dit les papiers sont bons, validé. Donc sont finalement au-dessus de toute autre forme de démarche, les papiers sont bons, ça ne se discute pas.
Oui, c'est l'article 47 du Code civil, là-dessus il n'y a pas d'histoire.
Ouais.
Mais, le problème, c'est que là, le procureur a utilisé une procédure à l'envers. Il a pris la décision avant même d'avoir le retour de l'authentification des papiers, uniquement sur la base de l'interprétation de tests sur ceux qui sont plus qu'aléatoires.
Et aujourd'hui, il refuse l'expertise de la police des frontières ?
Pour l'instant, il refuse de nous recevoir, il refuse d'entendre quoi que ce soit, il ne répond pas, il fait comme si on n'avait rien dit, rien fait. Je ne sais pas si c'est un refus, si c'est un blocage professionnel, si je ne sais pas. Mais pour l'instant, on en est là et ça fait quand même maintenant plus de 2 mois que la situation perdure. On protège les gamins, on les protège à titre personnel, parce que ce sont des gamins, il n'y a pas d'histoire, et en plus à vivre avec eux, je veux dire, ça se confirme tous les jours, quoi. Donc on ne lâchera pas là-dessus, il reste à voir quelles sont les procédures, il n'y en a officiellement aucune, on en trouvera quand même.
L'enjeu est important, puisque quand on est mineur, donc on est accompagné, on n'est pas à la rue, comme vous le dites, en foyer, en famille, on est scolarisé, alors que quand on est majeur, tant qu'on n'a pas l'asile, on n'a pas le droit de travailler, on est lâché dans la nature. Et ce qui fait la différence, ce qui fait attester qu'il soit majeur, ce sont ces fameux tests osseux. On en avait entendu parler, Christian Maurice, mais il y a presque 10 ans maintenant, des tests osseux, c'était sous Sarkozy, quand on faisait la chasse aux immigrés, on pouvait le dire comme ça, il y avait beaucoup de mineurs isolés en France. Des juges ont démonté certaines procédures qui avaient fait appel à ces tests osseux. Et aujourd'hui, c'est très étonnant qu'on y revienne. Comment ça se fait ?
Enfin, certains ne l'ont jamais abandonné. Ça revient un peu en force. Pourquoi ? Je ne crois pas qu'il y ait des consignes politiques particulières à l'égard des jeunes. Il y a une peur importante de la situation actuelle de l'immigration. Alors il y a des discours très favorables à l'accueil des migrants et puis il y a des pratiques très défavorables. Donc entre les paroles et les actes, il y a une très grande...
Mais ça c'est au libre arbitre des procureurs finalement ?
Non.
Ça, ou des juges des enfants
En ce qui concerne les gamins, oui. En ce qui concerne les mineurs, oui. L'histoire des tests osseux ne peuvent être utilisés ou sont susceptibles d'être utilisés que lorsqu'il y a un doute sur les documents d'état civil ou lorsqu'il n'y a pas de documents d'état civil. Ce qui n'est pas le cas de cela. C'est ça qui est important à bien souligner. L'article 47 du Code civil dit que les documents d'état civil authentifiés prévalent à tout le reste. Alors pourquoi aujourd'hui cette attitude-là et pourquoi à fois, je ne comprends pas bien. On avait déjà eu effectivement des démêlés jadis qui s'étaient terminés au tribunal, mais à la majorité des intéressés, pas tant qu'ils ont été mineurs, et qui se sont soldés par des réponses positives. Il y a effectivement un certain nombre de tribunaux qui ont pété, qui ont cassé des décisions. Voilà.
Mais pour le moment, pas le tribunal ariégeois. La juge des enfants refuse même d'étudier le dossier.
On a interpellé la juge des enfants, pas nous, parce qu'on ne peut pas le faire. Les gamins intéressés, dès lors qu'ils sont considérés comme ayant suffisamment de jugement, de capacité, peuvent saisir eux-mêmes le juge des enfants. On l'a fait, qui a répondu laconiquement en 2 lignes, au vu de votre dossier, qu'elle n'a pas d'ailleurs, il n'y a pas de dossier, et sans les avoir vus, sans entretien, je n'envisage pas d'intervenir en votre faveur. Point barre. Ça, c'est la position de la juge des enfants.
Donc aujourd'hui, on en est à des gamins qui sont considérés comme des adultes.
Qui sont dans la rue.
Et qui sont officiellement dans la rue. C'est pas le cas en vrai.
C'est pas le cas en vrai. Si, au Seine, il reste encore tout à faire quant à l'organisation de son séjour. Chagib, on l'a pris en charge. Il est domicilié chez moi. J'espère pouvoir lui faire suivre une scolarité un peu normale au lycée. Au Seine, je pense qu'on va faire la même chose auprès de copains, de particuliers, sachant qu'en réalité, la loi impose au conseil départemental, ex-conseil général, d'assurer la protection des enfants mineurs en danger.
Sauf que ce n'est pas des enfants, au vu des tests osseux. Et
le
donc,
procureur a déclaré que ce n'était pas des enfants, point barre. Maintenant, on interpellera de la même façon le président du conseil départemental en lui disant « débrouillez-vous avec le procureur ». Nous, on a des mômes et je peux vous dire, monsieur le président, que s'il arrive un pépin à ces gamins-là, on ne se gênera pas pour porter plainte contre X. Ça, je crois que c'est important.
Quand on est militant comme vous depuis aussi longtemps et qu'on travaille sur des cas concrets, individuels, humains... À ce point-là, depuis aussi longtemps, Christian Maurice, on se dit pas un moment, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Enfin, on s'est dit peut-être il y a quelques années, quand le pouvoir a changé, que ces questions-là n'allaient plus se poser de cette façon-là, et ça continue.
On pouvait s'y attendre parce que les rares modifications qu'il y a eu du code CESEDA qui gère les étrangers en France n'ont été que des broutilles. Hein. Bon, sur le fond, toutes les dispositions restent en place et peuvent être mises en service demain matin. Il ne suffit pas de mettre une circulaire pour dire que des gens comme moi qui leur venons en aide sont susceptibles d'être inculpés. Là, il y a une circulaire qui dit on n'emmerdera pas des privés. Hein, des passeurs, oui. Des épiciers du transit, oui. Mais ceci dit, la loi n'est pas modifiée. Le texte est toujours en vigueur. Le texte est toujours là. Demain matin, un autre ministre de l'Intérieur, un autre préfet peut très bien les mettre en œuvre. Un autre procureur peut très bien les mettre en œuvre tels qu'ils sont, sans avoir rien à modifier, pour à nouveau s'en prendre à des gens qui viennent en aide aux étrangers. Ça, c'est clair.
Et alors là, c'est plutôt dans votre réseau et auprès des gens qui se réunissent avec vous et qui se proposent d'aider, c'est plutôt quoi qui prime ? C'est la lassitude ou justement peut-être une envie d'en découdre, d'être là, d'être présent, d'en découdre, pas forcément violemment, mais de dire ben non, on va continuer plutôt deux fois qu'une.
Non, je crois que, il y a aussi le contexte. Hein, quand on voit à la télé défiler des centaines, des milliers de personnes à pied avec des gamins dans les bras, d'autres dégringoler d'une barcasse en mer Égée ou je ne sais où, je veux dire, on n'a pas besoin de gueuler très fort pour que les gens soient émus et aient envie de s'en mêler et de dire que c'est aussi leur affaire. Et les réseaux, de ce point de vue de solidarité, ont plutôt tendance à se développer, à se renforcer actuellement, que le contraire. Il n'y a pas de lassitude du tout. Là où il y a une certaine lassitude, c'est sur les fausses promesses, les discours de dédouanement, il n'y a pas d'autre mot, qui sont tenus au niveau des officiels et qui ne sont pas suivis des faits. Là, oui, là, il y a... Mais qu'ils ne se fassent pas d'illusions, c'est pas ça qui casse les bras des militants. C'est ça qui, au contraire, par contre, ça peut se retourner contre eux. C'est ça qu'ils y réfléchissent.
Christian Maurice pour la Ligue des droits de l'homme de l'Ariège. Donc trois possibilités envisageables à ce jour, outre celle avancée actuelle dans les derniers propos de Christian Maurice. La demande d'asile de mineurs, qui supposerait, il l'a dit, que le procureur nomme un administrateur ad hoc, ce que visiblement il ne fera pas. La présentation en préfecture de ces jeunes avec le risque d'une obligation de quitter le territoire français, joliment nommé OQTF, ou mise en stand-by jusqu'aux 18 ans, selon les papiers. Dans tous les cas, et la Ligue des droits de l'homme n'exclut pas cette possibilité-là, ça permettrait de saisir un tribunal administratif ou, et c'est ce qui est fait actuellement, c'est la mise à l'abri de Chaïb Hossein pour accroître la mobilisation de solidarité actuellement en œuvre. Toujours est-il que, et je le disais en introduction, je le répète, on s'attendait plus, vu de l'extérieur, à ce que dans ce pays, on continue à traiter les gens qui viennent s'y réfugier, y compris lorsqu'ils sont mineurs, de cette façon. À très bientôt sur l'antenne de Radio Transparence.